music. Skunk Heaven, New York City Noise, on July 7th, 2022, at 9 p.m., La Sala Rosa, 4848 Saint Laurent. For more information on the concert and conference on protest music and anti-fascism, music and antifascism.wordpress.com. This concert, with generous support from Suoni per il Popolo and Popolo Press. This is a CKUT Radio co-presentation.
CKUT, les vibrations de la communauté. CKUT FM 90.3.
Vous écoutez Lesbos Son avec Nathalie Dipalma sur les ondes de CKUT 96.3 FM. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très heureuse parce que ce soir, on retrouve Joanne Cadorette. Joanne collaborait à l'émission Dykes on Mikes de 96 à 98. Nous avons co-animé l'émission La Balade des Furies de 98 à 2005 ensemble. Elle a aussi fait partie des Mambo Drag King. Elle a eu sa chronique dans le magazine Fugue. Elle a longtemps travaillé à la librairie L'Androgyne et j'en passe. Après 17 ans d'absence à CKUT, Joanne viendra sporadiquement à l'émission pour nous parler de différents sujets et elle collaborera aussi à la réalisation de l'émission. Bonsoir, Joanne Cadorette.
Bonsoir, Nathalie. Quel plaisir de te retrouver.
Oui, absolument. Je suis tellement contente. Aujourd'hui, on va discuter d'épuisement professionnel, un sujet qui touche beaucoup de gens, mais dont on n'entend pas beaucoup parler. Pourquoi c'était important pour toi qu'on parle de ce sujet-là ce soir?
Ben, c'est important pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et je suis comme couramment comme en train de m'en sortir. Et c'est quelque chose de récent, c'est quelque chose qui s'est passé pour moi dans les deux dernières années. Et c'est sûr, maintenant que je regarde le cheminement que j'ai fait et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle pour m'amener à ce point-là, il y a des choses que j'ai vécues et que je comprends maintenant qui sont vraiment reliées à la réalité, premièrement, d'être une femme professionnelle et aussi d'une lesbienne travaillant dans un milieu professionnel. Donc, effectivement, tu as raison, c'est pas quelque chose qu'on... On dit qu'on n'en parle pas beaucoup maintenant dans les médias quand même depuis la pandémie. Ça a été assez abordé, tu sais, l'histoire du burn-out et du, tu sais, en anglais, on parle beaucoup aussi dans les médias anglophones du grand changement, de les gens qui ont laissé leur poste pour aller faire autre chose et le burn-out en suivant dans ces conversations-là. Mais je pense que d'en parler d'un point de vue vraiment plus féministe, ça serait quand même intéressant. Et puis pour moi, c'est sûr que quand je regarde en arrière, là, je vois les choses que j'aurais peut-être pu corriger, mettons, pour éviter faire ça. Et finalement, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est en parler pour que moins de femmes vivent la même chose que moi et qu'on puisse réaliser quand on est en danger et comment corriger la situation et s'en sortir avant de vraiment être en état de burn-out.
Est-ce que tu veux expliquer, premièrement, c'est quoi l'épuisement professionnel?
Oui, exactement. En fait, le vrai mot en français, c'est épuisement professionnel, mais tout le monde dit burn-out, mais c'est à peu près la même chose. C'est pas vraiment quelque chose qui est comme... c'est pas diagnostiqué, là, mettons, au niveau médical. Souvent, ce qu'on va dire, c'est un trouble d'adaptation. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on caractérise l'épuisement professionnel par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment frappé parce que dans ma tête à moi, là, j'ai toujours pensé qu'un burn-out ou un épuisement professionnel, c'était nécessairement suite à un trop grand nombre d'heures travaillées ou une surcharge de travail aiguë. Mais quand on regarde cette définition-là, c'est vraiment beaucoup plus subtil que ça. Et le résultat de ces choses-là, effectivement, d'avoir une charge de travail trop élevée ou d'avoir trop d'heures à travailler, effectivement, ça peut être ça. Mais ce sentiment-là de fatigue intense, c'est la perte de contrôle et l'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Ça peut être causé par beaucoup, beaucoup de choses. Puis on va voir plus tard que pour les femmes en particulier, particulier, c'est quelque chose qui est quand même assez différent que chez les hommes.
Tantôt, tu disais, ça fait 2 ans. Est-ce que c'est relié à la pandémie? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés en télétravail pour ceux et celles qui n'ont pas arrêté de travailler. Ça avait un caractère un petit peu insidieux parce qu'on était dans une période incertaine. Il fallait continuer de performer dans un contexte qui n'était vraiment pas évident.
Oui, ben, je pense que tu as tout à fait raison. Et puis, j'ai lu quand même quelques articles à ce sujet-là, justement, que quand la pandémie a vraiment été déclarée, bon, on s'est tout ramassé chez nous. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé comme dans les réseaux des autres personnes, comme le tien, par exemple, mais dans ma compagnie et moi, dans mon entreprise, on était très fiers de voir que, oups, OK, là, on est à la maison, mais on est hyper performant. Et puis avec mon équipe aussi, moi, je gérais une équipe à ce moment-là, puis on était vraiment fiers parce qu'on a vraiment... Puis en plus, j'ai dû mettre du monde à pied aussi, tu sais, c'est pas... Mais on a continué quand même à avoir un vraiment bon rendement, et puis la mentalité, c'était vraiment bon, on se retrousse les manches, et puis, tu sais, on continue... C'est pareil comme si rien n'était même. T'sais, de l'autre côté, il y avait aussi le fait qu'on vivait tous quelque chose d'extrêmement stressant. T'sais, au début de la pandémie, on ne savait pas c'était quoi, vraiment. T'sais, qu'est-ce qui allait nous arriver si on était malade, il n'y avait pas de vaccin. On était vraiment mal informés. L'information des gouvernements changeait comme à tous les jours. On avait peur pour nos aînés. Fait que c'était une situation qui était extrêmement stressante. Puis on a comme un peu divorcé ces deux réalités-là. T'sais, les employeurs n'ont pas dit, regarde, parce que là, on est conscient que vous êtes stressés et puis qu'il y a quelque chose qu'on vit en tant que communauté globale et puis on doit faire plus attention. Ça a été plutôt le contraire. Ça a été, OK, bon, OK, on continue.
Oui.
On s'assure de ne pas perdre de vente, puis de ne pas baisser les profits, puis d'être performant, puis tatatou, tatata.
Puis on est chanceux de continuer de travailler, parce qu'il y en a beaucoup.
Exactement.
C'est ça.
C'est ça. Puis moi, ce qui m'arrivait beaucoup aussi, c'est alors, OK, ben, au moins je travaille. C'est, hey, je suis bonne, hein, c'est comme, wow, j'ai pas arrêté de travailler. Fait que c'est un peu comme ça.
Je me suis dit la même chose, puis ça a eu une incidence. J'ai trouvé ça, moi, insidieux, parce que d'un côté, oui, j'étais contente de continuer de travailler, mais d'un autre côté, c'était vraiment stressant. Puis je pense que j'ai eu des symptômes un peu d'épuisement professionnel, parce que c'était quand même une ambiance bizarre.
Ouais, ben exactement, c'est ça. Puis moi, dans mon domaine à moi, ça a été en fait la catastrophe, parce que ça a été vraiment une grande transformation du modèle d'affaires, et puis ça a été une période extrêmement achalandée. Je te dirais, c'est vraiment de grande croissance, mais dans une période vraiment difficile. Ça a été... Non, c'était pas facile, j'avoue. Et puis, c'est sûr que moi aussi, je me trouvais pas pire non plus, parce que, tu sais, j'avais des collègues qui travaillaient plus dans les exploitations, tu sais, qui pouvaient pas travailler à la maison. C'est des gens qui doivent être présents pour gérer comme une opération quand même assez complexe. Et puis, bon, moi, je me disais, ben au moins, moi, je suis à la maison. Mais bon, à la maison, j'ai quand même, tu sais, je riais tantôt, puis quand tu dis une absence de 17 ans, mais bon, c'est sûr que là, mon plus vieux a 17 ans. Ça correspond carrément avec,
exactement.
Avec le passage de ces enfants-là dans ma vie. Il y en a deux, mais il y a ceux d'entre nous qui sont parents aussi. On a vécu ça aussi pendant, au Québec, du mois de mars. Ils ont arrêté d'aller à l'école. Les enfants, ils flânaient à la maison. Là, il n'y avait même plus de... Il n'y avait rien, là. Il n'y avait pas d'école. Et puis, il n'y avait même pas d'école là, virtuelle. Ils ne pouvaient pas aller voir leurs amis. Il y avait... Et puis là, nous, on travaille, là, puis ils sont à la maison. Donc, you know, fait que ça a été, c'était vraiment exigeant. Puis moi aussi, toujours, je me disais, ben au moins, c'est pas pire, les miens, c'est des ados, ils dorment jusqu'à 10-11 heures, tu sais, ils peuvent quand même jouer en ligne avec leurs amis ou whatever. Puis j'avais des collègues qui avaient des très jeunes enfants, là, c'est encore pire, là, tu sais, t'entends de ça pendant les réunions, là, la petite de 3 ans, qui chingue, maman, tu sais, c'est stressant, ça. Fait que moi, je me trouvais pas si pire, finalement, c'est comme, au moins, les miens, c'est des ados. Mais c'est sûr qu'eux aussi ont vécu des choses.
Oui.
Ils ont eu aussi, eux, des troubles. Et puis, c'est sûr que tu peux pas juste fermer ta porte et dire, regarde, arrange-toi, là, tu sais, avec ta pandémie et tes problèmes. Je te revois à 5 heures, tu sais. Au moins, ça marche, you know.
Non,
parce que c'est sûr que ça aussi, ça a été difficile. Ouais. Fait qu'effectivement, oui, c'est très relié à la. Mais pour moi, en tout cas, c'est tout à fait que toi, tu penses que tu aurais peut-être vécu ces symptômes. Tu sais, des choses qui, maintenant, tu penses peut-être que tu frôles un petit peu les barres du burn-out. Si tu veux, on peut regarder c'est quoi les symptômes psychologiques d'un burn-out, justement. On peut enchaîner tout de suite avec ça.
Bien sûr.
Ben, écoute, tu disais, pour moi, ça date au moins depuis 2018 là, que ça a commencé quand je regarde ça. Puis vraiment, ce que j'ai vu dans la recherche, c'est vraiment ça. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est pas un burn-out. C'est vraiment comme à cause que tu as eu une semaine trop chargée ou même une année trop chargée, c'est long. Fait que ça se passe pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à s'installer. Donc, peu à peu, on déploie une énergie agrandissante pour accomplir son travail, sans toutefois obtenir de satisfaction. Fait que tu travailles de plus en plus, OK, t'en mets de plus en plus, mais tu te sens pas comme plus compétente ou plus capable de venir à bout de toutes les choses que tu as à faire. Fait que les frustrations s'accumulent et là, le cynisme augmente. Moi, quand j'ai lu ça, là, c'est vraiment venu me chercher parce que moi, c'est là que je vois à partir de 2018. Les personnes qui m'ont connue là, depuis longtemps, il n'y aurait personne qui m'aurait décrit comme quelqu'un qui est cynique. C'est vraiment pas... Je suis une personne optimiste. Mais là, je regarde dans mes comportements puis dans mes réactions au travail. Puis même à la maison, des fois, ma blonde me disait, tu sais, c'est comme un peu comme... tu passes une coche facilement. Fait que, puis là, je le vois. Fait que le cynisme, en fait, c'est un symptôme d'un début de burn-out. L'autre chose qui se passe, c'est la concentration est de plus en plus difficile à obtenir. Fait que t'as de la misère à te concentrer. Fait que là, tu te sens moins efficace.
Ouais.
Fait que là, c'est comme un cercle vicieux, tu sais. Fait que d'autres symptômes là, dans la liste, là, c'est la démotivation constante par rapport au travail, irritabilité marquée, colère spontanée et pleurs fréquents. Pleurs fréquents, ça, c'est pas mon genre, mais colère spontanée et irritabilité marquée, je dirais que oui. Attitude cynique et sentiment de frustration, oui. Sentiment d'être incompétent. Ça, là, c'est vraiment quelque chose parce que tu as l'impression que c'est de ta faute à toi que tu peux pas en venir à bout de ta charge de travail. Fait que là, la seule solution, c'est de travailler plus. Tu sais, tu te lèves le samedi matin puis tu travailles quand tout le monde est couché ou tu t'installes des nouveaux outils de gestion de projet pour être plus efficace ou tu essaies d'instaurer des nouvelles pratiques dans ton équipe parce que tu te sens jamais comme assez compétente ou capable de surmonter ta charge de travail. Goût de s'isoler. Ça, moi, je pense que je ne suis pas seule là-dedans. Je pense que dans la pandémie, il y a beaucoup d'entre nous qui ont vécu ça. On était à la maison. Moi, à un moment donné, quand il était temps et on avait le droit de revenir au bureau, c'était extrêmement stressant pour moi. J'ai eu beaucoup d'anxiété juste à concevoir d'aller au bureau ou juste à planifier d'y aller. C'était la catastrophe. Je ne sais pas pourquoi. Ça me stressait. J'arrivais là, puis il n'y avait pas un chat, forcément. Mais il y en avait un petit peu là, que je voyais comme dans le fond là-bas, puis je ne voulais pas aller les voir. Ça ne me tentait pas de leur parler. Puis même des fois, j'y allais avec les membres de mon équipe, et puis, tu sais, bon, ils étaient heureux de se retrouver. Moi, j'étais là, non, taisez-vous, on travaille. On travaille. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça. Je n'avais pas le goût de me retrouver comme dans un milieu social relié à mon travail. Puis pourtant, j'étais une personne extrêmement sociable au travail avant. OK? Fait que ça, c'est ce qu'on appelle un drapeau rouge. Baisse de confiance en soi, ça, absolument oui. Anxiété, inquiétude et insécurité, difficulté à se concentrer, on l'a vu tantôt. Perte de mémoire, ça m'est pas trop arrivé parce que je suis quand même assez organisée, mais ça, je connais d'autres personnes qui ont vécu ça. Difficulté d'exercer un bon jugement. Ça, c'est intéressant parce qu'on prend les mauvaises décisions quand on est dans cet état-là. Donc, parce que notre jugement est affecté. Indécision, confusion, et au pire aller, là, c'est vraiment pensée suicidaire, c'est le cas le plus grave, mais c'est des choses que les gens peuvent vivre. Donc, malheureusement, pour corriger une situation comme ça, quand on commence à se sentir comme ça jusqu'à l'épuisement, on a souvent le réflexe de s'investir davantage dans le travail. Comme je disais, tu sais, on dit, je vais travailler plus, je vais en venir à bout, tu sais. Et puis, cette marche à vide peut durer des années. Et le déni, c'est aussi typique de l'épuisement professionnel. C'est souvent, on vit souvent ça comme un échec. Moi, je dois avouer que ma conjointe, durant la pandémie, quand on travaillait à la maison, elle me l'a dit plusieurs fois qu'elle était inquiète de moi, qu'elle pensait que c'était un peu pas gérable, mon travail. Puis ça me fâchait, puis je lui disais non, c'est parce que tu connais pas ce que tu dis, OK? Moi, ma job n'est pas comme la tienne. Et puis, c'est comme ça, puis on est toutes comme ça à ma compagnie. C'est normal, c'est une entreprise avec un modèle d'affaires qui est compliqué, donc c'est parce que tu comprends pas. Fait que c'était un peu le déni qui s'installait. Puis là, j'étais là, non, c'est pas vrai, parce que regarde, je suis allée travailler à 5h30. Je faisais attention pour surveiller mes heures aussi. Je faisais attention pour pas, tu sais, j'avais des collègues qui travaillaient souvent jusqu'à 10-11 heures le soir. Moi, je faisais pas ça tout le temps. T'sais, des fois, il y avait des urgences, ça faisait partie de la nature de mes tâches. Forcément, des fois, il y avait des urgences la fin de semaine le soir, ça a toujours été comme ça. Mais tu sais, je faisais quand même assez attention pour pas... Je pensais que je pensais avoir créé des balises pour me sécuriser puis pour assurer que je ne ferais pas de burn-out finalement, puis pas de même faire marcher. Fait que dans la liste que je viens de nommer, Nat, toi, est-ce que tu te reconnais dans ça?
Ah oui, il y en a que oui. Moi, ce qui est spécial, c'est que j'ai changé d'emploi après 8 ans. Je suis arrivée à mon nouvel emploi le 9 mars 2020.
Oh boy.
Donc, j'ai juste eu le temps d'aller chercher mon laptop, puis je me suis ramassée en confinement. Oui, j'ai eu ça, ce sentiment-là d'être incompétent. Puis j'ai aussi eu la déception parce que j'étais engagée pour les événements, puis là, il n'y avait plus d'événements. Fait que mes
Ouais.
tâches ont comme changé un peu, mais j'ai réussi à en faire quand même. Mais je me rends compte que j'ai quitté cet emploi-là en février 2022. J'ai démissionné, ça a été vraiment difficile. Baisse de confiance en soi, je faisais beaucoup d'anxiété, des pertes de mémoire, j'ai eu ça, moi, un peu. Après, avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai fait vraiment une bonne job à cet emploi-là. Mes projets ont réussi. Je trouve que dans les conditions dans lesquelles j'étais, j'ai vraiment performé quand même dans ce travail-là. Puis c'est sûr que changer d'emploi, ça crée un stress aussi. Puis j'avais beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Maintenant, quand je regarde ça, je suis fière. Mais pendant que j'étais dedans, je doutais beaucoup. Ouais, je pense que c'était les 2 ans de la pandémie. J'ai quitté, puis je suis bien contente. Mais
Ouais.
je trouve que ça va mieux. Mais j'ai pas eu de diagnostic. Mais à la fin, avant de donner ma démission, j'ai essayé de rejoindre mon médecin de famille parce que là, ça allait vraiment plus. Puis j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous avec lui. Fait que finalement, j'ai juste démissionné. Puis je me suis choisie en faisant ce
Exactement. Tu as
move-là.
décidé de prendre soin de toi, là. C'est exactement ça, tu sais. Et puis, en fait, c'est intéressant que tu dis ça parce que tu as eu, selon mes recherches, vraiment le bon réflexe d'essayer de communiquer avec ton médecin. C'est ce qu'on nous dit, hein. Moi, c'est ça que j'ai fait parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que, OK, ça va mal à la shop, là. Il se passe de quoi? Et j'arrivais pas à surmonter. J'avais des symptômes physiques que je comprenais pas. Et puis, j'arrivais, tu sais, je dormais pas. Et puis, tu sais, bon, ça, à un moment donné, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'ai eu de la chance que mon médecin où je vais, il y a une clinique. Puis, à ce moment-là, on était comme un peu dans un moment plus tranquille de la pandémie. Et puis, tu pouvais prendre un rendez-vous d'urgence avec un autre médecin de famille. Fait que c'est comme ça que je l'ai fait. Mais c'est pas tout le monde qui a accès à un professionnel, c'est ça. Fait qu'en fait, ce qu'on devrait faire, c'est bon, si on se reconnaît dans ces symptômes-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben moi, ce que je suggère, c'est qu'on rappelons-nous que l'épuisement professionnel n'est pas nécessairement relié au nombre d'heures travaillées dans un premier temps. Hein. Fait qu'on peut, comme le déni s'installe, on peut douter la validité de nos symptômes et les nier carrément lorsque l'on considère que le travail, on travaille un nombre d'heures assez raisonnable. Hein. Fait que mettons que tu te reconnais là-dedans, dans les symptômes qu'on a discutés tantôt, là. C'est vraiment pas moi parce que puis, finalement, je travaille pas beaucoup d'heures. Je travaille pas tant d'heures que ça. Mais tu sais, comme on a vu au début, c'est pas juste le nombre d'heures ni la charge de travail. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent contribuer à un burn-out. Puis en fait, dans mes recherches aussi, ce que j'ai vu, c'est que je voulais voir, bon, qui ça touche et puis c'est quoi la différence entre un burn-out que fait une femme et que fait un homme, par exemple, OK? Fait que les effets du stress chronique sur la santé mentale des travailleurs se manifestent partout dans les pays industrialisés, OK? Fait que selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est un phénomène qui est quand même assez commun. Et ce que je voulais voir avec toi dans le contexte de ton émission, c'est qu'il faut vraiment souligner qu'effectivement, les femmes sont plus à risque de l'épuisement professionnel, OK? Donc, selon une étude en relations industrielles qui a été faite en relations industrielles et sociologie à l'Université de Montréal, les femmes seraient plus propices à l'épuisement professionnel que les hommes en raison de la nature de notre travail. Fait qu'on se retrouve souvent à travailler dans des postes où on est premièrement surqualifié. Donc, la surqualification peut exprimer un effet de plafond de verre. Là, je cite justement l'étude là, qui a été faite à l'Université de Montréal. Les femmes sont moins susceptibles d'être promues à des postes de niveau supérieur. Fait qu'on se retrouve souvent dans des situations où on est surqualifié, où on est frustré parce on pourrait en faire plus. On voudrait avancer dans nos carrières, on voudrait avoir plus de responsabilités, mais le phénomène de plafond de verre est quand même assez réel, toujours aujourd'hui. Et ça peut mener à un burn-out aussi. OK? Le manque d'estime de soi, les conflits de travail et l'absence de prise de décision qui en découle nous mettent donc plus à risque. Donc, c'est pour les femmes d'être dans une situation où on n'a pas le contrôle sur les décisions qu'on peut prendre, où on se sent un peu comme pas vraiment comme complètement engagé dans ce que l'on fait. Ça peut mener à un burn-out. Tandis que pour les hommes, c'est vraiment plus le nombre d'heures travaillées et la surcharge de travail qui va venir causer un burn-out. C'est vraiment intéressant. Fait que pour nous, c'est d'autres facteurs qui sont reliés en fait au fait qu'on est femme. Et donc, moi, ce que je vais lancer comme hypothèse, là, c'est que oui, effectivement, pour les femmes, on est plus susceptible à faire ça à cause du sexisme et de la discrimination au travail. Mais c'est sûr que si on est lesbienne ou pour tout le monde qui pourrait être LGBTQ2S, il y a un risque encore plus accru, je te dirais, parce qu'on peut souffrir de plus qu'une forme de discrimination au travail. Tu sais, il y a le sexisme, oui, mais bon, blanche, si t'es une femme, puis t'es une personne qui est non blanche, tu peux vivre un sexisme et aussi un racisme. Il y a deux niveaux de discrimination qui, en fait, peuvent mener à un sentiment de frustration et de manque de confiance et manque d'estime en soi, qui peuvent mener éventuellement à un burn-out. Tandis que chez les hommes, c'est vraiment plus relié carrément à la charge de travail et les heures travaillées.
C'est intéressant.
Là, on va enchaîner dans la fameuse question de qu'est-ce qu'on fait si on se reconnaît dans ce qu'on vient de discuter. Là. Donc, s'il y en a parmi tes auditrices qui se reconnaissent ou qui pensent « Ah oui, franchement, finalement, je regarde ça puis je suis peut-être en train de commencer ou de vivre un burn-out », il y a plusieurs choses qu'on peut faire puis ça dépend vraiment de ton milieu de travail. C'est sûr que dans un premier temps, il faut faire quelque chose immédiatement. Il faut changer quelque chose. Fait que soit qu'il faut prendre une journée de congé non prévue ou couper nos heures de travail un peu ou éliminer les tâches non essentielles. Dans le meilleur des cas, c'est sûr, il faudrait parler à son employeur. Hein? Donc, si on a une bonne relation avec son gestionnaire, là, il faut vraiment avoir une conversation franche avec cette personne-là pour leur dire, bon, écoute, j'en ai trop sur mon assiette ou je commence à me sentir que j'en viens pas à bout. Il faut vraiment commencer par avoir une conversation. Mais des fois, on n'est pas toujours à l'aise à avoir ces conversations-là avec nos employeurs. Moi, j'ai eu ce problème-là parce que moi, je voulais vraiment, dans un premier temps, protéger mon équipe. Parce que moi, je me disais, si moi, je pars en burn-out, mon équipe, mais là, c'est eux autres après qui vont en souffrir. Puis je voulais pas faire ça. Fait que, aussi, je pensais pas vraiment que j'étais rendue là. Fait que quand même que j'aurais peut-être lu ça dans un article, là, parlez-en à votre employeur. Puis c'est sûr que c'était quelque chose qui était discuté aussi dans les réunions d'équipe. N'hésitez pas à demander de l'aide, tata. Pour mon équipe, pour des circonstances que j'expliquerai pas, il y avait vraiment pas d'aide. Mais dans certaines autres équipes, il y avait peut-être un peu plus de support possible. Mais moi, je ne l'ai pas fait ça. Mais dans le meilleur scénario, c'est ça qu'il faut faire. C'est soit avoir une conversation avec son employeur ou à la limite une personne des ressources humaines. Ça dépend du genre d'infrastructure qu'il y a à chaque compagnie. Oui. Si c'est une grande entreprise ou une petite entreprise, ça peut vraiment varier. Aussi, franchement, en parler à son médecin. Parce que le médecin, moi, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont posé comme... En tout cas, c'est peut-être pas 300, mais j'ai eu l'impression de répondre à 300 questions. Puis c'était vraiment comme très précis pour aller voir qu'est-ce qui se passe, là, la madame, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui. Là. Et puis, c'est en répondant à ces questions-là qu'ils ont déterminé c'était probablement quoi. Et puis là, elle m'a recommandé vraiment d'arrêter de travailler. Bon, à ce moment-là, j'étais pas capable d'arrêter de travailler parce que j'étais dans un nouvel emploi. En fait, j'avais changé d'emploi justement pour éviter mon fameux burn-out parce que je me doutais que c'est ça qui se passait. Mais bon, je l'ai fait quand même. Fait que dans plusieurs compagnie, dépendamment des avantages sociaux, on peut demander une pause, on peut demander un arrêt de travail. C'est sûr que pour faire ça, ça prend un billet de médecin. Le médecin peut demander à votre employeur de vous faire arrêter de travailler pendant une semaine, deux semaines et puis trois semaines, tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut certainement se faire. Aussi d'en parler à ses collègues et à ses amis et à sa famille aussi. Parce que d'en parler à d'autres, ça peut souvent aider. Parce que des fois, on se reconnaît pas dans qu'est-ce qui se passe. On devient vraiment habitué à ce qu'on vit. Mais des fois, quelqu'un comme dans mon cas, moi, c'est ma conjointe qui commençait à dire « Écoute, c'est parce que ça a un peu pas d'allure de ton travail. » Mais je ne l'ai pas écouté. Mais justement, il faudrait écouter. Et puis, tu sais, si nos amis et les personnes dans notre entourage commencent à nous dire « Regarde, parce que je suis inquiète de toi », mais il faut peut-être vraiment commencer à se poser des questions.
Oui, absolument. Moi, je sais que j'ai attendu à la dernière minute d'être vraiment plus capable. J'ai pas eu d'arrêt de travail, puis ce que j'avais pas pensé, c'est que j'avais un 3 semaines de préavis en plus à donner.
Oh boy, oui, effectivement. J'imagine que c'était les pires 3 semaines de ta vie.
Effectivement. Je suis allée travailler à un autre emploi ensuite. J'ai quand même pris un mois et demi à mes frais de congé, là, quand même, avant de recommencer pour me remettre de tout ça.
Bien, puis des fois, c'est ça que ça prend. Ça prend juste, il faut juste, tu sais, recommencer à zéro. Et puis, je pense que quand on peut se le permettre, c'est vraiment la chose à faire. C'est sûr que, idéalement, si on est employé d'une compagnie qui nous permet de prendre un mois de congé de maladie, c'est idéal.
C'est mieux,
mais,
ouais.
T'sais, moi, ben, c'est mieux, mais tu sais, franchement, moi, je les ai vus, ces personnes-là, faire ça, là. Et puis, c'est comme à un moment donné, il faut que tu reviennes à ton travail, là. Puis là, il y a quoi qui a changé, vraiment? Tu sais, tu vas revenir à ton poste, puis c'est toujours un retour graduel. Mais à un moment donné, ils retournent dans leur tâche, là. Est-ce que des choses ont changé? C'est difficile à savoir, tu sais. Puis, en fait, les autres choses, il y a d'autres questions qu'à se poser, tu sais. Si vous voulez, justement, discuter avec votre employeur, on recommande vraiment de faire comme une analyse de qu'est-ce qui se passe. Donc, en parlant à vos amis ou même avant d'aller parler à votre employeur, l'intérieur, vraiment de regarder c'est quoi les sources de stress dans votre travail, c'est quoi? Est-ce que c'est la surcharge de travail? Est-ce que c'est le manque de soutien de votre employeur? Est-ce que c'est, est-ce que c'est parce qu'on a mis du monde à pied puis là tout d'un coup on se retrouve à faire des affaires qu'on faisait pas avant? Est-ce qu'il y a une incertitude au niveau de l'emploi? C'est des fois quand les compagnies vont pas bien, ça peut nous stresser. C'est quoi aussi les situations qui me stressent? C'est est-ce que c'est quand j'ai des réunions à préparer? Est-ce que c'est quand je dois me rendre au bureau? Est-ce que c'est quand j'ai des dates de tombée? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les situations qui me stressent? Et puis là, on essaie d'aller travailler. Bon, comment puis-je faire pour réduire le stress de ces situations-là? Quelles peurs ou perceptions m'ont empêché de passer à l'action pour tenter de changer la situation? Ça, c'est quand même assez profond, là. Quel changement pourrais-je apporter à mon travail pour vivre moins de stress? Ça, je pensais que je le faisais, t'sais. Mais bon, quel changement mon employeur pourrait-il apporter? Fait que ça, c'est toutes des choses qu'il faut considérer. Dans mon cas, à moi, tu sais, moi, j'essayais de faire, j'ai toujours eu une vie assez saine, tu sais, je fais beaucoup d'exercices, je profite beaucoup de l'extérieur, tu sais, j'essaie de, tu sais, d'avoir quand même une vie assez riche. Puis ça, ça m'aide quand même avec le stress. Mais à un moment donné, ces choses-là, ça fonctionnait plus. Mais moi, je me dis, ah, tu sais, je ne ferais pas le burn-out parce que je fais de l'exercice, puis je mange mon brocoli, puis je travaille pas trop après 6 heures, tu sais, c'est correct. Pas de même, ça marche, mais bon. Fait que c'est des questions à se poser. Puis souvent, il y a des choses qu'on peut faire. Hein? On peut faire souvent des choses, comme je disais, des choses immédiates, ne serait-ce que de prendre un congé ou de parler à un collègue ou à son employeur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour immédiatement réduire le stress. Et puis ensuite, on regarde bon plus profondément qu'est-ce qu'on peut faire. T'sais? L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est dans les grandes entreprises, il y a souvent des services de soutien aux employés. Ça, je vous conseillerais aussi d'aller voir aussi c'est quoi les ressources disponibles de votre employeur. Parce qu'il y a souvent des services comme ça. Il y a des services qu'on peut comme appeler un numéro et puis juste parler à quelqu'un. Et puis là, après ça, ils peuvent nous recommander des ressources externes. Fait que c'est des choses aussi qu'on peut regarder.
Oui, absolument. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont touchés?
Oui, en fait, effectivement, selon l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, les problèmes de santé psychologique, donc le burn-out en est un, là, comptent maintenant environ 40 % des prestations d'invalidité. 40 % OK? Fait que ça veut dire les compagnies là, qui assurent les entreprises, là, 40 % des prestations d'invalidité sont suite à un trouble de santé psychologique relié au travail. Donc, et ça, c'est jusqu'à 60 % dans certains secteurs. Et pour comparer, là, en 1990, ce pourcentage-là, c'était 18 %. Fait que de nos jours, les problèmes de santé psychologique constituent la première cause d'absence prolongée du travail. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience qui se passe, hein? Ouais. Parce que c'est un peu, tu sais, c'est toujours regarder ces statistiques-là d'une certaine façon. Oui, effectivement, 40 % des prestations d'invalidité, ça semble énorme, mais peut-être qu'en 1990, on n'osait pas en parler. Tu sais, on faisait notre épuisement professionnel tranquillement ou on disait que c'était quelque chose d'autre ou on appelait peut-être ça une dépression ou une dépression nerveuse, tu sais, ou je sais pas. Il y avait peut-être d'autres façons de le dire ou il y avait peut-être même pas carrément des options d'assurance comme ça parmi les employeurs. Fait que je ne sais pas, c'est difficile à voir, mais c'est quand même, c'est extrêmement commun. Moi, je sais que d'avoir travaillé dans une quand même assez grande compagnie, là, c'est pas anormal d'entendre dire que quelqu'un était parti en congé de maladie. Puis que c'était pas comme une maladie physique. Là. Tout le monde le sait pas, là, mais c'était comme compris que, bon, cette personne-là était comme en burn-out. C'était pas rare, je te le dirais.
Donc, c'est être à l'écoute de nos symptômes.
Oui, effectivement. Être à l'écoute de ses symptômes et vraiment, si on ressent une grande fatigue, un épuisement, c'est de prendre l'action immédiatement. Aussi, il y a beaucoup, beaucoup de ressources en ligne. Hein. Vraiment, j'ai trouvé plein de choses. En fait, j'ai trouvé une mini-série de documentaires qui s'appelle « Ça va mal à la shop ». Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça a été produit par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Si vous allez voir savamalashop.org, vous allez trouver toutes les vidéos qui ont été faites dans plusieurs industries. Et puis, ça parle, c'est des personnes qui témoignent justement de leur expérience avec l'épuisement professionnel. C'est extrêmement intéressant. Il y a aussi un site web qui s'appelle passeportsanté.net qui a un article très compréhensible sur l'épuisement professionnel. Je vous le recommande. Et aussi sur le site web latoiledesrecruteurs.ca. J'ai aussi retrouvé l'article qui parle spécifiquement de l'épuisement professionnel étant plus commun chez les femmes. J'ai essayé de rechercher pour voir chez les lesbiennes, c'est-tu plus commun, puis j'ai trouvé quand même des instances plus dans les médias anglophones, mais c'était plus relié au travail de militantisme, donc l'épuisement professionnel dans celles qui font ce travail-là. Mais moi, je suis certaine qu'il y a quelque chose là, parce que c'est sûr que c'est beau travailler dans un milieu qui est extrêmement ouvert d'esprit, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a toujours un stress d'être différente. Oui. Il y a toujours un stress qui s'installe. Comme je disais tantôt, il y a deux couches de stress. Il y a le couche d'être une femme. En plus, il y a le stress d'être lesbienne. Et puis moi, je suis une personne blanche. Fait que j'ai pas le stress de racisme, mais il peut s'installer encore d'autres stress. Fait que je pense que pour les femmes, effectivement, on est vraiment plus susceptibles. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être aller voir un peu plus. Est-ce qu'il y a plus d'instances d'épuisement professionnel parmi les lesbiennes? Je suis très curieuse.
Il y a un stress de plus à avoir à faire son coming out avec un nouvel employeur.
Ben, exactement. Et puis, tu sais, éventuellement, moi, j'ai jamais vécu d'instance où quelqu'un a agi d'une façon agressive ou négative envers moi. Mais tu sais, tu regardes, par exemple, moi, j'étais aussi souvent dans un milieu très masculin à cause de l'une des industries dans laquelle j'ai travaillé longtemps. C'est un domaine extrêmement masculin. Fait que j'étais souvent dans un souper d'affaires, par exemple, la seule femme à la table. Mais non seulement je suis la seule femme à la table, mettons qu'ils sont comme, on est comme 9 ou 8 ou 10, même des fois, je me suis retrouvée à être en voyage d'affaires et puis j'étais la seule femme dans un groupe d'à peu près 18 hommes. Et puis, écoute, ça me dérangeait pas, mais c'est sûr que au point de vue des discussions qui ont lieu, si tu veux contribuer à la discussion d'une façon franche, il faut que tu sois parfaitement à l'aise. Et puis ça, c'est pas toujours évident parce que tu connais pas toujours tout le monde très bien. Tu sais, quand tu es avec des clients, par exemple, tu sais pas c'est quoi leur conviction. Tu sais pas si c'est des gens, par exemple, je sais pas, extrêmement chrétiens, là, je dis n'importe quoi. Tu peux pas le savoir. Là, tu rencontres pas quelqu'un, allô, je suis Joanne et puis je suis lesbienne. Tu sais, j'espère que t'es pas lesbophone. Tu sais, c'est pas même ça se passe. Fait qu'il y a toujours un malaise. Tu sais, puis, ou même juste, tu sais, tout le monde parle de leur conjointe. Et puis, tu sais, c'est toujours mon mari, ma femme, mais toi, tout d'un coup, tu dis en anglais my partner, puis t'es le seul qui dit partner. Tu sais, c'est comme, fait que ton coming out, tu l'as fait, là, c'est comme parce que t'as utilisé un mot différent. Tu sais. Donc, effectivement, c'est des. Je sais pas. Moi, je pense que c'est. On parle en travail antiracisme, on parle beaucoup de micro-agressions. Mais moi, je pense que c'est la même chose au niveau de la lesbophobie. Il y a des micro-agressions. Et puis, tu sais, de se faire poser des questions niaiseuses, tu sais, ou d'avoir des collègues qui te disent, ben, moi aussi, j'aime les femmes, tu sais, des affaires de même.
Moi aussi, je suis lesbienne.
Ouais, exactement, c'est ça. Ou, tu sais, puis ça, c'est des micro-agressions, puis d'en vivre tout le temps, ça s'ajoute à notre stress quotidien. Et puis, ça veut dire qu'on vit ces choses-là dans nos milieux de travail. On vit pas ça à la maison, là. Mm-hmm. On vit ça dans nos milieux de travail. Fait que c'est sûr que ça contribue à l'épuisement professionnel, selon moi. J'ai pas fait d'études là-dessus, là. Mais d'après moi, il y a quelque chose, là.
Absolument. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là aujourd'hui, Joanne. C'est vraiment intéressant.
Bien, ça me fait plaisir et j'espère seulement que s'il y en a qui nous écoutent, qui se sont reconnus dans ces symptômes-là, je vous encourage vraiment de soit de faire des recherches. En fait, il y a plein de ressources en ligne, même sur YouTube. Il y a des podcasts là-dessus, il y a des balados. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources disponibles. À la limite, parlez-en à votre employeur, mais ça ne vaut pas la peine d'essayer de faire semblant que ce n'est pas là et ça ne partira pas tout seul. Donc, il faut vraiment agir.
J'ai hâte de voir s'il y aura des études qui vont sortir par rapport à la pandémie pour ceux qui ont continué à performer pendant cette période-là. Je ne sais pas si ça a commencé à sortir, mais ce serait intéressant de voir.
Effectivement, on pourrait faire un petit suivi là-dessus.
Merci beaucoup. Puis au plaisir de se reparler très bientôt.
Oui, Nathalie, sur un sujet plus positif peut-être.
Oui, mais c'est nécessaire d'en parler quand même.
Oui, exactement.
Merci.
Bye.
Bye. Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by, it's all taking and no giving, they just use your mind. Thank you.
heart to shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working nights to provide, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They must use your mind and you never get the credit. It's enough to drive you crazy if you love it. Nine to five, yeah, they got you where they want you. There's a better life and you think about it, don't you? It's a
Vous écoutez Les Beaux Sons sur les ondes de sécurité 90.3 FM. On vient d'entendre 9 to 5 de Dolly Parton et une chanson de Clopelgag. Comme c'est la période des vacances, on a pensé parler destinations estivales avec Richard Trudeau, qui est photographe et qui nous ramène toujours des photos extraordinaires de ses voyages. Salut Richard.
Bonjour Nathalie.
D'ailleurs, tu viens tout juste d'entrer d'Italie. Qu'est-ce que tu retiens de ton voyage?
Ben, en fait, mon voyage, c'était avec ma mère. C'était pour son 75e anniversaire. Puis c'était vraiment l'occasion de s'offrir à toutes les deux des souvenirs à vie. Puis ce que je retiens, c'était extraordinaire, évidemment. C'était l'Italie. Ni une ni l'autre, on avait mis les pieds dans ce pays-là. Puis on a vraiment un super voyage, du début à la fin.
Puis vous avez fêté vos deux anniversaires dans ces deux semaines-là. C'est spécial quand même.
Oui, on est à une semaine d'intervalle, ces deux. Donc, on a choisi nos dates, mais surtout, on a choisi nos dates parce qu'on savait très bien qu'avec les vacances qui commençaient, puis ça fait 2 ans que les gens voyageaient plus.
Oui.
Donc, on savait très bien qu'il était pour avoir un engouement durant les vacances. Fait qu'on a voulu y aller juste avant pour pas se faire prendre. Puis on a eu raison parce que c'est le chaos dans les aéroports en ce moment. Quand je suis revenue, je n'étais pas au courant parce qu'on tient moins sur les nouvelles en voyage. Mais quand je suis revenue, c'était le chaos déjà au dépôt des bagages. Puis quand on est rentré à Montréal, j'ai vu qu'il y avait des centaines et des centaines de valises qui traînaient. Je comprenais pas pourquoi parce que, bon, comme je te dis, je n'étais pas trop au courant des nouvelles. Puis après, quand j'ai écouté, je me suis rendu compte que c'était vraiment, il y avait énormément de difficultés puis beaucoup trop de voyageurs pour ce que les compagnies aérienne était capable de fournir. Donc,
c'est un manque de main-d'œuvre?
Oui, c'est que je pense qu'ils ont laissé beaucoup de gens prendre leur retraite durant la COVID. Même, ils ont encouragé à prendre des packages, je pense. Puis là, ils sont pris avec vraiment trop de voyageurs pour le nombre d'employés qu'ils ont. Je pense qu'ils annulent plein de vols en ce moment aussi. C'est ce que j'ai compris cette semaine. Mais moi, je vous dirais, aller voyager au Québec ou aux États-Unis en voiture, peut-être.
Oui. Ce serait plus simple en ce moment.
Oh, ouais, je pense que ben c'est sûr que si les choses sont déjà... Souvent, on s'organise à l'avance pour faire ça, mais c'est sûr que si vous avez réfléchi à des voyages de dernière minute, j'irais encourager nos copines québécoises ou même en Ontario, il y a des belles plages. Puis même, aller faire un tour à Burlington, moi, j'aurais envie d'aller là à la fin de l'été. Je sais pas, ça fait des années que je suis pas allée, puis il me semble que ça serait une bonne idée cette année.
Oui, de pouvoir se rendre en voiture à Boston, c'est pas si loin en plus. Est-ce que tu es allée déjà à Sandbanks?
Non, c'est ça. J'aimerais vraiment faire Sandbanks un jour, parce que ça a l'air vraiment magnifique. C'est pas loin, là. C'est sûr que c'est sur ma liste, mais comme l'année dernière, c'est un peu là que je voyais tous mes amis y aller.
Mm-hmm.
Puis je connaissais pas vraiment ça, je vais être honnête avec toi, je connaissais pas cet endroit-là. Ça manquait à ma culture, sauf qu'il y avait tellement un engouement l'année dernière à cause que, justement, les gens pouvaient pas voyager, que c'était impossible de trouver quelque chose à louer. Mais peut-être que cette année ou l'année prochaine, ça va être des endroits à prioriser dans notre liste d'endroits où aller se poser puis se reposer un peu.
Il y a plein de petits gîtes aussi qui sont intéressants au Québec. On a un beau pays, il faut le visiter. C'est le fun aussi de voyager en auto. C'est ça, il y a des gîtes au Québec qui sont tenus par des gays lesbiennes aussi. Sur les guides GQ, à l'adresse www.guidegq.com, André Gagnon a répertorié tous les gîtes ou les établissements tenus par des gays et lesbiennes à travers le Québec. Alors, ça peut être une autre option intéressante pour voyager cet été.
Oui, même peut-être plus loin même que Québec. Je suis allée quelques fois à Halifax, puis c'est vraiment extraordinaire. C'est tellement beau. C'est facile de voyager là. C'est des vraies vacances. Si tu peux te poser facilement, ce serait un endroit que je trouve intéressant à aller voir en ce moment.
Est-ce que tu as eu l'occasion de prendre beaucoup de photos en Italie?
Ben, normalement, quand je prends beaucoup de photos, c'est quand je suis seule. Parce que quand tu es seule, ben, c'est là que je peux vraiment calmer mon esprit puis vraiment prendre le temps de voir. Parce que prendre une photo, c'est de voir, d'observer la lumière. La photo, c'est la lumière, donc comment la lumière tombe sur les choses. Fait que, c'est sûr qu'avec ma mère, ben, on était toujours ensemble. Puis c'est moi qui s'occupais de tout, c'est moi qui ai tout organisé. Donc, évidemment, j'ai pas pris une tonne de photos comme j'ai fait dans mes autres voyages. Parce que, justement, j'étais toujours occupée à faire quelque chose d'autre. Mais si je retournais en Italie, c'est sûr que je le ferais différemment. Si j'y allais seule, j'aurais pris énormément de photos parce que c'est tellement beau. Mmh. C'est grandiose. C'est un pays que... Puis on a fait plus des villes, mais quand même, c'est un pays grandiose. C'est plus vrai que nature. Puis même, ça serait difficile de rendre justice, exemple, à Rome, puis même à Florence. On est allé à Venise. C'est des endroits hyper touristiques. Puis on a vu des milliers de photos là-dessus. Mais c'est sûr que si j'allais prendre des photos, ça serait peut-être plus les humains, ce qui m'intéresse d'habitude.
Oui, Oui, c'est
donc,
ça.
Donc, j'irais plus faire du portrait parce que j'ai vu des visages vraiment intéressants. Mais un jour, je vais me rendre aux Pouilles pour aller faire des photos d'humains parce que les Pouilles en Italie m'intéressent énormément. Puis je pense que les personnes qui habitent là, leur visage ont quelque chose à dire. Donc, ce serait... Si j'allais faire des photos moi-même toute seule, ce serait mon endroit de prédilection en Italie.
D'ailleurs, tu as pris des portraits extraordinaires en Inde quand tu es allée. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut les voir, tes photos?
Ben, j'en ai un petit peu sur mon site web, mais c'est sûr que si tu vas sur mon Instagram, ils sont loin.
Ah ouais.
Sont loin. Mais sur mon site web, richardphoto.com, on peut les trouver.
Tu es une excellente photographe. Tu fais du portrait.
Oui, je fais du portrait, je fais des headshots. Puis c'est ça, souvent des portraits de voyage. Je pense que le portrait, c'est ma force. C'est sur mon site web, dans la section humain, c'est là qu'on peut voir quelques visages partout dans le monde.
Génial. Merci beaucoup, Richard, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Bonnes vacances à tout le monde.
Oui, merci.
Bon été. Bye.
Bye-bye.
Vous écoutez Les Beaux Sons sur les ondes de sécurité 96.3 FM et la chanson qu'on vient d'entendre était une interprétation de Lisette Potvin, une de nos auditrices de Gatineau. Si vous avez besoin de vous détendre, quoi de mieux que le cinéma sous les étoiles qui a commencé le 29 juin dernier et qui se poursuivra jusqu'au 9 septembre. C'est plus de 70 films documentaires dont 55 projections gratuites qui seront présentées dans 21 parcs du Grand Montréal. Parmi toute la programmation composée de documentaires à caractère social et politique de l'actualité, voici des films qui pourraient vous intéresser. D'abord, il y a un programme de 6 courts-métrages documentaires qui a été conçu en collaboration avec le Festival de films féministes de Montréal et qui sera diffusé le 8 juillet à 21h15 au Parc Jarry. Ensuite, si vous êtes en vacances et que vous passez par Charlevoix, le film The Straight Agenda d'Emily Robertson de Toronto sera diffusé le mercredi 27 juillet au Parc Saint-Gabriel. C'est l'histoire d'une jeune écrivaine qui partage son expérience de coming out en tant que femme pansexuelle. Il y a le film La Case qui sera diffusé le mardi 26 juillet au Parc Médéric Martin à Sainte-Marie en Beauce. Aussi, plus près de nous, le jeudi 11 août de 20h30 à 23h, la 31e édition de Vidéos de femmes dans le parc du groupe Intervention Vidéo Le GIV aura lieu au Théâtre de Verdure. C'est un événement qui est gratuit et accessible. Les portes ouvrent à 19h30. C'est une entrée libre, pas de réservation requise et il y a une capacité de 2500 places. Si vous ne connaissez pas le GIV, le groupe Intervention Vidéo fondé en 1975 à Montréal fait partie des rares centres qui, de par le monde, se consacrent à la mise en valeur d'œuvres vidéographiques réalisées par des femmes dans sa définition la plus inclusive, en les distribuant et les diffusant tout en soutenant activement la production. Son catalogue de distribution comprend actuellement 1700 œuvres regroupant le travail de 370 artistes. Durant toute l'année, le GIV organise des activités de diffusion et de création en collaboration avec des artistes de plusieurs disciplines, commissaires invités, festivals et organismes du milieu communautaire, ainsi que tout un pan de création d'œuvres numériques diffusées sur le web. Alors ne manquez pas ça, le jeudi 11 août, de 20h30 à 23h, au Théâtre de Verdure. Si vous voulez voir la programmation plus en détail du cinéma sous les étoiles, on vous invite à visiter leur site web cinemasousleséloiles.org/programmation. On s'en va en musique et on revient pour la conclusion de l'émission.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. There's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice,
every night and
easy
day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice,
one minute
and rough.
And now
we're going to take the beginning of this song
the thing might
and do it
been
easy.
Big wheel, keep
but then we're going to do the finish
turning.
Rough.
Proud Mary,
it's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary, and we're rolling, rolling, ooh, rolling
on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city,
working for the man every night and day, and I never lost one. Sleeping,
and I was worrying
about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on the river.
Yeah, on the river.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à Joanne Cadorette et à Richard Trudeau. On se donne rendez-vous le lundi 18 juillet prochain à 19h. On se laisse avec une chanson de Marilyn Léonard. Prenez soin de vous et bonnes vacances aux vacancières. À bientôt.
Don't give a shit about nothing. Je suis sur les réseaux pour ma vitrine. Ils prennent des photos, font des stories. Comme s'ils ont compris c'est quoi la vie.
Je suis partie trop loin sur mon bateau. J'ai coulé trois fois, pas vu les drapeaux rouges. Ah non, cette fois-ci, je pense que j'ai pris la bonne erreur. Cette fois-ci, c'est pas la même chose. Ooh, hey, I don't give a shit about anyone else. Même si tu slides dans mes DMs, I'm about to ride. Tu sais, copilote sur la route. Genre 24-7, we're going to heaven. J'entends sa voix dans la foule. C'est trop, je n'ai plus de doute. Je sais que j'ai tendance à mettre tous mes efforts dans ma carrière, mes chansons pour vivre de passion. Mais t'es la seule que je vois dans la foule. Je suis sur les réseaux pour ma vitrine. Ils prennent des photos, font des stories. Comme s'ils ont compris c'est quoi la vie. Je suis partie trop loin sur mon bateau. J'ai coulé trois fois, pas vu les drapeaux rouges. Ah non, cette fois-ci, je sais que j'ai pris la bonne erreur. Cette fois-ci, c'est pas la même chose.
CKUT 90,3 FM.
As long as there have been human beings, the human beings have gathered in the summer at different times of the year to celebrate being human beings. And so to me, this is kind of a form of that, what's happening in this technological digital reality that we're in. So it's good to see that everyone's bringing their energy here in a way that's really about celebrating and feeling good. So this is kind of, this is a part of the kind of reality that our reality needs, this kind of healing thing. Well, as long as I'm up here, you know, we're on the subject. Human beings, right? Because most of you are not my generation. I came out of a generation that did whatever we did in our own way to try to make things better for your generation. There were accomplishments and then there were things that weren't really quite accomplished and they've been left kind of fuzzy and hazy and things, I think, still. But one thing that I think is important, we remember that we're human beings, that we recognize ourselves as human beings, because that's the reality of who we are.